Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, et les princes se liguent-ils avec eux, contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui.
Voilà, mais bonjour à tous et à toutes. C'est un grand privilège que de pouvoir partager la parole de Dieu et ce matin de pouvoir encore parler de lui, parce que nous avons un grand Dieu qui écoute les prières et qui répond, et un grand Dieu qui est tout-puissant. C'est ici, dans ce psaume, nous découvrons quelque chose de particulier. C'est ce grand conflit. Il y a une humanité qui est en conflit avec Dieu. Alors, vous avez ces juges de la terre et il y a une question qui est posée. Pourquoi? Et en fait, on se dit qu'on aimerait bien avoir la réponse. Pourquoi? Il est dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? C'est la grande question que les gens se posent. C'est à quoi rime tout ce que nous voyons sous les yeux? Qu'est-ce qui se passe sur cette terre? Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Pourquoi l'humanité agit-elle de cette manière-là? Et pourquoi l'évangile n'est pas reçu comme il devrait être reçu? Pourquoi les gens refusent l'évangile? Pourquoi les gens ne veulent pas être sauvés? Pourquoi est-ce que l'immoralité est devenue une règle et une loi? Et il est dangereux de dire que nous ne sommes pas d'accord avec l'immoralité. C'est pourquoi est-ce que les choses sont engagées comme elles sont engagées en ce moment? Et c'est la grande question, c'est l'ultime question, c'est la question des questions finalement. La réponse tient en peu de choses. Il y a dans cette humanité, il y a dans ce monde un grand conflit. Il y a un conflit entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Après, on se dit, oui, mais on croit que les gens ont des idées indépendantes et qu'il y a des multitudes de courants de pensée qui vont dans une direction, d'autres qui vont dans d'autres directions, et que finalement, il y a un brassage d'idées et les idées se heurtent les unes aux autres et les comportements aussi. Mais au-delà de tout cela, au-delà de tout ce que nous voyons et que nous constatons, il y a un conflit suprême, il y a un conflit au-delà de ces conflits. C'est le conflit qu'il y a entre Satan et Dieu. C'est Satan qui est contre Dieu. C'est Satan qui essaye d'imposer sa volonté contre la volonté de Dieu. Dieu est le créateur. Dieu a créé toutes choses. Et il a créé des lois que l'on ne peut pas transgresser. Ou plutôt, si on les transgresse, on s'en porte mal. C'est la transgression d'une loi et produit la mort. Si par exemple dans mon corps il y a une transgression des lois que Dieu a fixées, Dieu a fixé un certain nombre de règles qui sont dans notre corps. C'est comme la circulation sanguine, hein, voilà, mon sang circule d'une certaine manière. Si les choses sont perturbées, eh bien, à long terme ou à court terme, c'est la mort. Si le cœur fait ce qu'il veut, c'est la mort. Si dans une société les choses vont dans un sens que Dieu n'a pas prévu, n'a pas voulu, eh bien c'est la mort aussi. C'est la mort de cette société. Quand nous regardons les empires et tout ce qui a existé sur cette terre, on parle des Grecs de l'Antiquité. On parle des Romains. Voilà. Mais ce sont des civilisations disparues. Pourquoi elles ont disparu? Parce que dans leur comportement, dans leur manière de faire, il y avait les germes de leur disparition. Un jour, elles ont disparu parce qu'elles devaient disparaître ayant transgressé les lois de Dieu. Ce sont des choses très importantes et qu'il faut prendre en considération. Il y a un conflit immense. Un conflit, c'est où l'ennemi de Dieu essaye de nous faire transgresser les règles, les lois de Dieu. Et c'est vrai dans l'humanité, c'est vrai dans nos propres vies, c'est vrai dans notre propre cœur, c'est vrai dans notre vie de tous les jours. Combien de fois nous avons ce que l'on appelle une tentation? Mais une tentation, c'est un appel à transgresser une loi divine, un principe divin, une recommandation de la parole de Dieu. Quand vous entrez dans cette logique de céder à la tentation, eh bien vous cédez à une règle que Dieu a fixée. Et à ce moment-là, vous en portez les conséquences. C'est le problème, c'est comment dire, l'enjeu de cet univers. Que va-t-il se passer? Qui va être adoré? Parce que finalement, au-delà de toutes les questions, qui c'est qui va être le premier? Qui va régner? Parce que dans ce monde, eh bien, les rois de la terre se soulèvent, les nations, les princes se liguent, etc. Brisons leurs liens, détruisons les chaînes. C'est-à-dire que qui va régner? Alors, la réponse de cette humanité, c'est de dire Dieu ne régnera pas. Dieu ne sera pas le souverain de cette humanité. Dieu ne sera pas le souverain de tout cela. Il y a un conflit et il faut que le conflit continue. Et Satan veut dominer sur Dieu. Satan veut dominer sur le monde. Il veut prendre l'initiative sur Dieu. Satan, dès le début, a voulu placer son trône au-dessus du trône de Dieu. Et c'est là que l'ange est déchu, hein. Satan était un ange de lumière. C'était une très belle créature de Dieu. Satan n'était pas. Dieu n'a pas créé un démon. Dieu a créé quelqu'un qui avait. Comment dire, une grande puissance et une grande autorité, si bien que ce n'était pas il est déchu, il est ce qu'il est devenu par la chute, par le péché, mais au départ, il ne l'était pas. Et quand il a voulu mettre son trône au-dessus du trône de Dieu, alors à ce moment-là, il est devenu Satan. Il est devenu un démon. Et il entraînait une partie des anges. Avec lui et ses anges, eh bien, sont ce que l'on appelle des démons et ce sont des anges déchus. Donc, cela se comprend très bien. Satan veut toujours établir son règne, dominer, établir sa puissance. Je voudrais vous lire un verset dans l'évangile de Matthieu. Dans Matthieu, au chapitre 4, verset 9. Déjà, en vous disant le chapitre 4, vous avez sans doute pensé à la tentation. Eh bien, c'est exactement cela. Et le verset 9, on va lire le verset 8. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et vous connaissez la réponse du Seigneur Jésus. Il a dit qu'il n'y a que Dieu qui doit être adoré. Il a refusé les royaumes de la terre. Il a refusé ce règne. Mais vous lisez au verset 8, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. C'est le Seigneur Jésus-Christ dans ce combat, dans ce conflit, a triomphé parce que Satan lui disait, tu vas régner tout de suite. Le Seigneur Jésus a dit, je régnerai quand le Père me donnera le règne. Et je le demanderai au Père. Je ne le demanderai pas à Satan. Dans toutes nos épreuves, dans tous les moments difficiles, il y a cette alternative qui va régner, qui va prendre la première place. C'est la question que nous devons nous poser dès le début d'une journée. On se dit, Seigneur, qui va prendre la première place dans cette journée? Et j'espère que votre réponse est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va prendre la première place. Vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait des moments difficiles. Vous pouvez vous attendre à ce que Satan va venir vous tenter. Vous pouvez vous attendre à ce que vous aurez des découragements. Mais qui va triompher? Qui va être le premier? Qui va régner? Est-ce que ça va être l'ennemi? Est-ce que ça va être moi? Ou est-ce que ça va être Christ? Est-ce que ça va être Dieu? Il y a un très bon livre qui a été écrit et qui s'appelle « L'enjeu du conflit mondial de l'humanité ». Voilà, le titre est un peu long. Et en fait, quand on réalise qu'il y a au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on voit, il y a un enjeu immense, un enjeu mondial. On voit les êtres humains s'agiter comme des fourmis dans une fourmilière. Hein. Chacun va dans sa direction et on a l'impression qu'il y a un ordre, il y a un ordre. Et il y a des choses qui sont faites et tout cela. Mais nous ne sommes pas des fourmis. C'est au-delà de tout ce que nous voyons, il y a un enjeu. C'est Dieu a créé l'homme pour un but. Ce but, c'est la gloire de Dieu. L'homme, l'être humain, est créé pour glorifier Dieu. Pas pour vivre dans la débauche, pas pour vivre dans le péché, pas pour vivre dans la désobéissance. Ce que nous voyons, nous, on le constate tous les jours dans notre vie, ce n'est pas le but. Là, tout à l'heure, on venait de Villebon avec le transporteur et j'ai vu une équipe de gens en train de courir. C'est le dimanche, enfin, on va pouvoir se faire un petit peu de sport et courir. Mais je suis désolé, c'est le jour du Seigneur, le dimanche. Ce n'est pas un jour pour courir. C'est dans l'enjeu de ce conflit, il y a des personnes qui ont choisi, au lieu d'honorer Dieu, d'aller faire un footing, d'aller courir, d'aller passer une heure ou deux avec des personnes que l'on connaît bien. On a formé une association, c'est un club, voilà, on s'entraide, quand on a fini, on va faire un petit barbecue ensemble et on va se retrouver, on va chanter quelques petites choses et puis on va se taper sur l'épaule, on va être très content. C'est fraternel, c'est une humanité, c'est la grande fraternité humaine. Et après, on peut dire, mais ils n'ont pas fait de mal. Ils ne se sont pas donné des coups de poing. Ils n'ont pas crié l'un après l'autre. Ils ont au contraire fait quelque chose en équipe et tout cela. Mais ils n'ont pas adoré Dieu. Le but de la création, c'est que l'homme adore Dieu. L'homme est une créature de Dieu. L'homme est une belle créature de Dieu. Il est la créature de Dieu la plus élevée. C'est notre responsabilité d'adorer Dieu, de chercher Dieu, de vivre en communion avec Dieu. Mais quand dans ce monde, les braves gens, parce que je ne parle pas des pécheurs endurcis, je ne parle pas des criminels, je ne parle pas des habitants des prisons, mais des personnes, des braves gens, ceux qui vont faire un footing amicalement entre eux, qui vont faire des choses super entre eux, eh bien ces personnes-là, n'adorent pas Dieu, ne cherchent pas Dieu, ne remplissent pas le rôle pour lequel ils ont été créés. Ils ont été créés pour la gloire de Dieu. Ils ont été créés pour honorer Dieu. Ils ont été créés pour servir Dieu. Alors, dans la pensée de notre monde, qui est une pensée de rébellion contre Dieu, on dit, mais quand même, je suis libre de pouvoir dire, de faire ce que je veux, d'adorer Dieu ou de ne pas l'adorer. En effet, ce monde est libre. Mais le monde, un jour, n'a pas à se plaindre des conséquences de son choix, de rejeter Dieu, de mettre Dieu en dehors de ses priorités, de mettre Dieu à la dernière place. Si vous voulez aller à une réunion, mais vous aurez du mal, parce qu'il faut trouver du temps, et vous êtes pressé par le temps de toutes les manières, c'est très difficile de prier. C'est très difficile de vivre la vie chrétienne, parce qu'il y a toujours un conflit. Si vous voulez aller faire un jeu vidéo, c'est beaucoup plus facile. C'est une pente. On se laisse glisser. Tandis que dès qu'il s'agit de marcher avec Dieu, ça monte. Et parfois, la montée est dure. Et même parfois, ce n'est plus une montée, c'est une ascension qu'il faut faire. Et il faut s'armer comme avec... vous allez escalader la face, je sais pas, la face ouest de l'Himalaya. Et là, il va falloir prendre les piolets, les cordes et l'équipe. Et il va falloir... c'est du sérieux. Ce ne sont pas des amateurs qui s'attaquent à ce genre de choses. Parce que il faut se préparer. C'est comme cela. La vie chrétienne est difficile. Parce qu'elle va contre le courant le plus facile. Le courant de la désobéissance. Le courant de la rébellion. Pourquoi est-ce qu'il y a Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se liguent-ils? Pourquoi il y a tout cela? Parce que ces personnes ne veulent pas se soumettre à Dieu. Elles ne veulent pas accepter la domination de Dieu. Chacun dit, je veux faire ma propre volonté. Je veux faire ce qui est dans mon propre cœur. J'ai fait mes choix pour ma vie. Moi, j'ai décidé que ma vie irait dans cette direction-là et qu'elle n'ira pas dans cette direction. C'est cette direction que je choisis parce que cette direction me plaît, parce que j'ai la gloire, j'ai l'argent, j'ai tout ce que vous voulez. Dans cette direction, eh bien, l'autre direction, il y a Dieu. Il y a, parfois, on est ignoré, on est même persécuté, on est même rejeté. Il y a même des gens qui parlent mal de nous. C'est un chemin difficile. Et on choisit le chemin de la facilité. Parce que on a choisi que ce soit l'ennemi qui règne. Alors bien sûr, on n'a pas choisi d'une manière en disant « je choisis que l'ennemi règne », mais on n'a pas choisi que Dieu règne. Donc on a choisi que l'ennemi règne. Qui va mettre Christ, couronner Christ, roi de sa vie? Qui va dire « c'est toi, Seigneur, qui sera le premier dans ma vie ?» Personne d'autre ne sera le premier. Et encore moins le péché, encore moins la désobéissance, encore moins la trahison. Et souvent, eh bien, ce sont des petites peccadilles, des petites choses, des petites habitudes qui règnent dans notre vie, qui prennent la première place. Et dans le conflit, dans l'enjeu de ce conflit immense, eh bien, on a choisi la mauvaise place, le mauvais camp. On a choisi de laisser régner quelque chose que Dieu désapprouve. C'est non pas quelque chose qui est, ce n'est pas un péché, mais c'est quelque chose qui prend la place de Dieu, qui prend la place de Christ dans notre vie. Et cette chose-là, eh bien, elle est dangereuse à cause de ce que cette chose-là n'est pas à la place, à sa place. Elle est à une mauvaise place. La place de Christ, c'est la place de Christ. Il n'y a qu'une seule personne qui peut être à cette place. Et quand il y a le mauvais choix, eh bien, il y a un conflit. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, dans nos vies, beaucoup de personnes disent « mais je ne vais pas bien. Spirituellement, je ne sais pas ce qui m'arrive. » Mais vous avez fait les mauvais choix. Vous avez pris votre volonté pour la volonté de Dieu. Vous avez fait quelque chose qui ne va pas. À certains moments, eh bien, je vous recommande, arrêtez-vous, arrêtez et pesez les choses, pesez le pour et le contre. Sachez où vous êtes, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, qu'est-ce qui vous a arrêté dans votre vie chrétienne, qu'est-ce qui a pris la première place, qu'est-ce qui est à une mauvaise place dans votre vie. Il y a des choses... même sans parler de que Christ soit à la première place, j'ai connu des gens que le jeu vidéo était avant la vie de famille. Je connais des gens comme ça. Quelqu'un qui... je les ai connus par Internet, je ne les ai pas connus physiquement. Mais ce sont des... Une personne s'est suicidée. C'est un de mes amis d'Internet. Il s'est suicidé. Parce que le jeu vidéo, sa femme l'a quitté, alors il a terminé avec sa vie. Et puis, il y a une autre personne, eh bien, ça a été un divorce. D'autres, chacun vit dans sa direction. elle joue aux jeux vidéo, lui, il fait de la musique avec ses copains. Donc, ils se s'entendent très, très bien. Chacun a ses priorités, chacun qui règne dans sa vie. Et en fait, cela crée que des problèmes. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas à leur vraie place. Et même sans parler de Dieu qui est à la première place, même si on ne parle que de choses de ce monde et des choses terre à terre, eh bien, il y a des ordres de priorité. Il y a des choses qui prennent une certaine place et d'autres qui prennent une autre place. Par exemple, si vos loisirs prennent la première place, il est bien évident que votre travail va en souffrir. Votre vie de famille va souffrir parce que vous avez des choses qui prennent la première place. C'est ou une place qui n'est pas la leur. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce monde. Ce monde a fait des choix et des choix de priorité. Et des choix de priorité qui sont faux. Et à un certain moment, on se dit, mais pourquoi les choses vont si mal dans ce monde? Pourquoi est-ce que ça va mal dans le monde? Pourquoi? Alors nous avons la réponse et nous disons, mais parce que Dieu, les gens ne croient pas en Dieu et ne mettent pas Dieu à la première place. C'est vrai. Et nous avons la réponse parce que la Bible nous dit que quand on met Dieu à la première place, eh bien les choses s'harmonisent. Et on a beaucoup plus de sagesse pour mettre les priorités, pour dire ça, ce ne doit pas avoir cette place-là dans ma vie. Mais ma famille doit avoir une place beaucoup prioritaire par rapport aux relations mondaines ou amicales ou etc. Quand Jésus-Christ règne dans une vie, alors il y a des choses qui s'harmonisent, qui sont orientées dans la bonne direction. On se dit, ça, ce n'est pas pour moi. On ne parle même plus de péché. Il y a des choses, on dit, ce n'est pas pour moi. Et il y a des activités mangeuses de temps. Elles vous détruisent votre temps, elles vous prennent tout ce que vous pouvez accomplir. J'ai lu il y a quelques jours la biographie de Balzac. Balzac est un homme qui est décédé à 51 ans. Alors, si je fais comme ça, je n'ai pas assez, mes bras sont pas assez larges pour mettre tous les livres qu'a écrit Balzac. Donc, pour vous dire que cet homme a beaucoup écrit, mais il est mort à 51 ans. Il travaillait. C'était un homme qui travaillait énormément. Quand il posait son regard sur une page, il photographiait 8 lignes. Nous, on lit 3 mots. En marchant comme ça, on lit 3 mots. Lui, c'était 8 lignes. Pour vous dire la capacité, il lisait un livre, en 1 heure, il avait lu un livre. C'était quelqu'un il ne s'amusait pas. Il n'avait pas beaucoup de loisirs. Il ne passait pas toutes ses nuits, faisait pas, dormait pas 10 heures par nuit. Il ne faisait pas la grasse matinée. Il avait cette priorité, c'était son travail. Il voulait écrire une œuvre qui englobait l'humanité. Il voulait écrire tous les aspects de l'humanité. C'est pour ça que ça s'appelle la comédie humaine. Donc il a voulu toutes les situations, tous les cas et vraiment le faire. Donc il avait un but et à cause de ce but, il a mis la priorité dans sa vie. Et je ne sais même pas s'il était marié. Je crois que dans sa biographie, ils n'ont pas dit qu'il était marié. Voilà. Donc c'est quelque chose. Je me dis, mais quand quelqu'un du monde, on se dit, mais ces gens-là n'avaient même pas l'électricité que nous connaissons. Ils avaient des bougies ou ils avaient des lampes à, je sais pas, je sais même pas si les lampes à pétrole existaient à cette époque. Ils s'éclairaient avec des moyens qui étaient difficile, donc les journées étaient beaucoup plus courtes. Eh bien, ces gens-là ont travaillé, ils ont accompli une œuvre. Mais nous, chrétiens, quand on regarde ce que nous avons à accomplir, ce que nous avons devant nous, c'est qui est une œuvre immense. On a le salut de l'humanité devant nous. On a les âmes perdues. On a les frères et sœurs. On a les églises. On a des ennemis. Il y a des gens qui travaillent contre l'église. Et on se dit, mais je vais pas, j'ai une semaine, là, je vais rien faire. Je vais vraiment me détendre. Je connaissais le fils d'un pasteur, il devait passer le bac. Et alors, le pasteur s'inquiétait de ce qu'il n'étudiait pas beaucoup. Alors, il lui a dit, tu sais, pour passer, réussir le bac, il faut travailler un peu plus. Et il a dit, tu sais, moi, pour passer le bac, j'ai besoin de me détendre. Je ne veux pas être tendu. Et bien sûr, il n'a pas réussi le bac. Alors après, le pasteur m'a dit, j'aurais aimé qu'il se tende un peu plus. Et je crois que Dieu aimerait bien que l'on se tende un peu plus. Il y a des moments où on réfléchit, on s'arrête et on se dit, mais dans ce conflit immense, dans ce combat, de quel côté je suis? Est-ce que je combats dans le camp de Dieu ou est-ce que je laisse les autres combattre? Est-ce que je fais confiance aux copains de ce qu'ils vont prier et de ce qu'ils vont intercéder pour les situations difficiles? Moi, bon, j'ai pas trop le temps. Je ne prends pas non plus le temps. Je compte sur les autres. Je sais pas, on a là quelqu'un qui pourrait nous dire hein, dans un combat qu'est-ce que le soldat qui laisse les autres faire, quelle opinion on a de lui? Oh ben, il n'a pas trahi encore, hein? Disons, excuse-moi là encore, mais pour moi, il a trahi. Il a trahi par son indolence, par son manque de priorité, par son manque d'engagement, par son manque de sérieux. En fait, on dit, on n'a pas besoin d'avoir autant d'ennemis, il suffit d'avoir de mauvais soldats. Et comme ça, eh bien, on est sûr de perdre. Oui, si vous avez une grande armée contre vous et que vous avez des hommes vaillants pour la repousser, ça va. Mais si vous avez une petite armée qui vient et que dans votre camp, eh bien, les hommes ne sont pas très vaillants et pas très encouragés et ne veulent pas s'y donner, eh bien, vous avez perdu. C'est comme ça. Et c'est ce qui se passe dans cet immense conflit qu'il y a dans l'humanité. Les chrétiens ne sont pas à leur place et ne font pas ce qu'il faut. Leur chef est contesté. Celui qui doit régner dans leur vie ne règne pas. Il ne le laisse pas régner. Il ne cherche pas à ce qu'il soit le premier. Il ne cherche pas à lui obéir. Vous avez la parole de Dieu, la Bible. Elle vous dit ce que vous devez faire. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous accomplissez ce qui est dit dans la parole de Dieu? Il y a le conflit, il est immense. Et vous, eh bien, vous n'écoutez pas, et vous ne lisez pas, et vous ne méditez pas, et vous n'approfondissez pas. Vous dites, mais ça, il faut que je change cela dans ma vie. Et je ne vais pas vous dire que c'est facile, c'est très difficile. Je vous dis, c'est aussi difficile que de grimper je ne sais plus quelle face qui est la plus difficile pour l'Himalaya, hein, si c'est la face nord ou la face ouest ou la face est ou au sud, je ne me rappelle plus. Mais il y en a une qui est plus difficile que les autres. Eh bien, c'est difficile et c'est même très difficile. Et c'est un combat. Et la vie chrétienne est un combat. Et c'est une lutte. Et ce n'est pas toujours contre l'ennemi que nous devons lutter, c'est contre nous-mêmes. Le pire ennemi que nous avons, ce ne sont pas les autres, ce n'est pas le diable, c'est nous. Mon ennemi à moi, c'est moi. C'est lui qui m'empêche de vivre la vie chrétienne. Ce moi qui règne sur mon cœur, qui prend tant de place, qui a décidé de faire sa propre vie. Ah ben ça, de toute façon, tu as le temps, tu vas faire ça. Et la petite voix au fond de moi-même qui dit non, ne le fais pas. Parce que tu dois passer du temps à intercéder. Il y a un frère qui a besoin de prière. Il y a une situation qui a besoin que l'on fasse ceci ou cela. On est en dehors du combat. C'est quand je lis certaines biographies de chrétiens, je me dis, mais ces chrétiens-là, mais ils passaient leur vie à vivre pour Christ. Et quand on voit, il accomplissait ça, il faisait ça, et puis il faisait ça, et puis il faisait une autre chose. Je me rappelle d'avoir lu cette histoire. C'était un pasteur, il était pasteur, il dirigeait un orphelinat, et il avait une responsabilité dans une école biblique. Alors, le pasteur qui était hébergé chez lui, comme prédicateur, parce que comme dans l'église dont il était le pasteur, il se dit, mais quand il a le temps de prier et de lire sa Bible, cet homme-là? C'est vraiment. Et puis, ces messages étaient toujours des messages qui allaient droit au cœur. C'était vraiment. Il se dit, il y a un mystère, je ne sais pas quand il prie et je ne sais pas quand il lit la Bible. Et alors, un jour, il est descendu pour boire un verre d'eau et il a vu la lumière du salon allumée. C'était tard dans la nuit. Et le pasteur priait et lisait tard dans la nuit. C'est là qu'il retrouvait ses forces. C'était un homme hyper occupé aux choses chrétiennes. Il était donné entièrement dans ce qu'il faisait. Et il avait trois œuvres qu'il accomplissait de front. Et il prenait sur ses nuits pour se trouver dans la présence de Dieu, prier et méditer. Il fallait vraiment habiter chez lui pour surprendre cet homme dans cette activité. Après son décès, celui qui avait surpris donc ses activités chrétiennes, il a parlé avec ses enfants et les enfants lui ont dit, oh, vous savez, mon père a laissé des notes écrites de pensées chrétiennes parce que quand il lisait et qu'il méditait la parole de Dieu, il écrivait beaucoup. Et en fait, il méditait profondément. Il approfondissait la parole de Dieu. Il ne se contentait pas d'avoir fait une lecture de 5 minutes de la parole de Dieu et d'avoir fait 5 minutes de prière. Et en tout, en faisant bien, en calculant rond, ça faisait 10 minutes. Mais lui, il passait du temps. Il approfondissait, il cherchait, il luttait dans la prière, quoi qu'il ait beaucoup d'activités. Et je me dis, mais à certaines époques, ces personnes n'étaient pas l'exception. C'était même la règle. Ils étaient vraiment donnés, ils accomplissaient, ils faisaient. Ils n'étaient pas des figurants dans la vie chrétienne. Ils étaient des acteurs et des acteurs actifs qui ont changé les circonstances. Et on dit, mais oui, mais à cette époque-là, il y avait des réveils. Oui, mais il y avait des réveils parce qu'il y avait des personnes comme cela. S'il n'y avait pas eu ces personnes, il n'y aurait pas eu de réveil. Et il y aurait eu autant de réveils à cette époque qu'il y en a à notre époque. Parce que qui se donne vraiment aux choses de Dieu? Qui passe vraiment du temps avec Dieu? Qui cherche vraiment Dieu? Qui prie vraiment? Qui intercède vraiment? C'est là toute la question. Il y a un conflit immense. Il y a une humanité perdue. Il y a un enjeu qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Nous ne savons pas qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le salut d'une âme? Une âme est sauvée ou elle va en enfer, selon ce qu'elle a accepté. Si elle a accepté Jésus-Christ comme son sauveur, ou si elle ne l'a pas accepté, elle est sauvée ou elle est perdue. Et nous, eh bien, nous sommes tranquillement en train de faire comme si de rien n'était, comme si tout allait bien. Mais il y a un enjeu immense, immense. Il y a la perte éternelle d'une humanité. Vous avez ce monde qui est devant vous. Il y a une grande partie qui, dans les 10 ans à venir, sera en enfer, sera perdue, parce que personne ne leur a annoncé l'évangile, personne n'a intercédé, personne n'a eu vraiment à cœur ces âmes perdues. Et il y a des églises qui sont en train de couler. Il y a des personnes qui se désintéressent de plus en plus de l'Église et des chrétiens, les enfants de chrétiens qui ne vont plus dans une église. Et même, on peut dire, des enfants de pasteurs qui se sont mariés dans le monde, et j'en connais. Et plus personne, mais personne n'intercède, personne ne s'inquiète de tout cela. C'est ce que je vous dis. Il y a un combat immense par lequel nous devons passer. Et il faut absolument gagner la victoire parce que cela dépend de nous. Nous croyons, nous, que cela dépend de Dieu, mais cela dépend de nous. Il faut absolument que nous prenions comment dire, la mesure de notre vie. Et il y a un moment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut s'arrêter. Il faut dire, à quoi sert ma vie? Qu'est-ce que j'ai en projet? Est-ce que mes projets sont vraiment à la gloire de Dieu? Est-ce que c'est vraiment les projets que Dieu veut pour ma vie? Et là, prendre la décision qu'il faut et dire, Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux vivre pour toi. Je veux vivre pas à 20% ou à 50% de ma vie chrétienne, je veux vivre la vie chrétienne à 100% et la vivre vraiment. être un acteur dans ce combat et combattre vraiment le bon combat. Et c'est ce que Paul disait hein, à Timothée, combat le bon combat de la foi. Parce qu'il y a un mauvais combat. Il y a des personnes qui combattent le mauvais combat. Mais combattez le bon combat parce que c'est entre vos mains. On croit en Dieu, c'est Dieu qui est le Tout-Puissant, mais cela est aussi entre les mains. De le pauvre humain que vous êtes, eh bien cela est entre vos mains aussi.